I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. Il y a quelques semaines, nous avons partagé avec vous le témoignage de Loulou Robert, autrice, ancienne mannequin, qui nous offrait un éclairage assez saisissant de la violence sexiste qu'il peut exister dans ce milieu de la mode. Ça nous a donné envie d'aller encore plus loin et de donner la parole à une nouvelle génération de mannequins engagés, la génération de l'après-MeToo, celle qui a bien intégré les limites à poser. Leurs profils sont variés, surprenants, ce qu'elles ont à nous dire l'est tout autant. Je vous propose donc de découvrir 5 portraits signés Jessica Gordon-Bray. On les a baptisés mannequins à l'heure de MeToo et ils forment notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Qu'est-ce que ça veut dire être mannequin à l'heure de MeToo? Qu'est-ce que ça veut dire prêter son image à une marque, à un créateur, quand justement l'image de la femme est au cœur des luttes? Pourquoi en France sommes-nous autant à la ramasse quand il s'agit de diversité dans la représentation des femmes? On ne rentre pas dans le milieu de la mode pour faire de la politique. Et pourtant, la mode crée des images. Qu'elle le veuille ou non, elle nous dit quelque chose de politique. En reflétant la société et en modelant ce que c'est d'être femme ou d'être belle. Je suis Jessica Gordon-Bray, je suis styliste et photographe et je fais partie de ce milieu. Et si souvent, j'ai eu l'impression d'être impuissante face aux injonctions, aux clichés et aux phrases exaspérantes telles que « une femme noire en couverture, ça n'est pas vendeur », je fais aussi partie de ceux et de celles qui s'interrogent sur ces images que nous produisons et véhiculons. Les jeunes femmes avec lesquelles je travaille sont bien loin de ces clichés. Elles sont de cette nouvelle génération qui arrive dans la mode presque au même moment que MeToo, qui comprennent les travers de ce milieu, mais sont loin d'être dupes et ne transigent pas sur leurs limites. Elles décrivent toutes une sorte de dédoublement qui leur permet de se détacher de cette image qu'elles vendent, et peut-être cela est-il lié à la capacité qu'a cette génération à garder le contrôle sur les réseaux sociaux. Je suis donc partie à la rencontre de ces mannequins nouvelle génération pour leur donner la parole, car si on les voit, on ne les entend que trop rarement. Elles sont noires, asiatiques, elles font du 46, elles font de la recherche en intelligence artificielle et parlent librement anticapitalisme. Je suis revenue avec elles sur leur parcours, leur rapport à leur métier et à leur image. Nous allons commencer avec Léna. Découverte sur les Insta Stories de Waya, un nouveau média en ligne, elle m'a tout de suite donné envie de l'interviewer. Elle a un avis tranché sur tout, y compris sur elle-même. Elle joue de son corps comme elle l'entend, mais seulement dans les conditions où elle est à l'aise et ne se sent pas humiliée. Elle amène le regard d'une femme racisée, plus size, très loin des clichés.
Alors moi, je suis Léna. Je suis modèle depuis 4 ou 5 ans maintenant. On me connaît sur les réseaux sociaux sous le nom de Sheva. Je suis afro-caribéenne. Et je suis une modèle plus size. Pour me décrire, je pense que je suis relativement grande. Je suis assez claire de peau. Je suis pas foncée, je suis même claire de peau tout court. J'ai des cheveux bruns, bouclés. Globalement, tout est brun chez moi. Je suis un camaïeu de brun. Et puis voilà, je fais une taille 46, je crois, en ce moment. 46, ça varie, mon poids varie beaucoup, mais en général, voilà, je suis entre 46 et 44 dans ces eaux-là. Très jeune, on a proposé à mes parents que je fasse des pubs, des photos, parce qu'apparemment j'étais un joli bébé. Mes parents ont toujours refusé, parce qu'ils considéraient que mon image m'appartenait. Du coup, j'ai eu la chance de commencer aux alentours de 17 ans pour des copines en art. Donc, je servais de modèle pour leurs portraits. Moi, d'abord, au départ, j'ai pris des photos. Prendre des photos, ça me frustrait beaucoup parce que mes parents ne voulaient pas m'acheter un appareil photo que je voulais. Du coup, j'ai décidé de devenir modèle et ça a plutôt bien fonctionné. Par la suite, parce qu'à l'époque, j'étais assez mince. Je faisais un 36-38, même si je me sentais énorme. Et par la suite, j'ai pris beaucoup de poids, j'ai pris une trentaine de kilos. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai d'abord beaucoup complexé et puis j'y suis retournée. Et je crois que je ne me suis jamais autant éclatée dans mon travail que ces dernières années. J'ai dépassé un complexe que j'avais plus jeune.
Et est-ce que tu peux me raconter ton premier shoot ou ton premier défilé? Est-ce que tu as un souvenir particulier de ça?
Alors, mon premier shoot, je m'en rappelle très bien. Ça a été sur un terrain de basket. Pareil, je devais avoir 17 ans, je crois que c'était l'année de ma terminale. C'était vraiment improvisé. Enfin, non, c'était pas improvisé, mais disons que c'était très, très amateur, parce que j'avais 17 ans, la photographe, je crois qu'elle devait en avoir 16. Du coup, je crois que je suis retombée sur les photos il y a pas longtemps. Je portais même pas de maquillage, enfin, c'était vraiment très, très amateur. Et j'avais adoré le résultat. Et je crois que c'était la première fois où je me suis vraiment trouvée belle, en fait. Je m'étais jamais vue comme ça.
Qu'est-ce que ça te fait de voir une image de toi ?
C'est compliqué. C'est, que je le veuille ou non, il y a toujours un moment de recul. Il y a toujours un moment où je passe toujours par une phase où je suis dégoûtée. Parce qu'on a une image différente de celle qu'on a dans la tête, de celle qu'on voit dans le miroir et de celle qui ressort sur une photo. Il y a toujours un moment, en fait, c'est pas que je suis dégoûtée, c'est surtout un moment d'adaptation. Un moment où je réalise, ah tiens, ça c'est moi. Et puis c'est toujours un angle nouveau, une pose nouvelle, pour un peu que je sois mal maquillée, truc, c'est... Mais après, on s'habitue. C'est-à-dire que j'ai pris l'habitude de faire une différence entre moi et la personne qui est sur les photos. C'est-à-dire que je ne me perçois pas comme la personne qui est sur les photos parce que déjà, ça va être retouché. Ou même si ce n'est pas retouché, je suis maquillée. Puis c'est pas... ce qui ressort sur une photo, ce n'est pas forcément ce qui ressort dans l'œil. C'est assez différent. Donc, je prends ça vraiment comme le résultat d'un travail.
Et est-ce qu'on peut revenir un peu sur tes origines, justement ?
Ma famille, mon père est de la Martinique. Ma mère est du sud de la France. C'est pour ça que j'ai grandi là-bas. Je suis très attachée à ma culture. Voilà, je pense que la transmission est quelque chose de majeur. Je revendique énormément mes origines parce que c'est ce qui m'a construit. C'est ce qui fait de moi, c'est mes goûts. Mes goûts sont totalement orientés, les saveurs que je connais, même sur la culture, la façon de se comporter. Je sais que c'est quelque chose que non seulement j'aime, mais c'est quelque chose que je travaille parce que j'y crois profondément. Et voilà. Moi, chez moi, c'est Antilles.
Et est-ce que tu te sens représentée ?
Non, je ne me sens pas représentée. Non, jamais. Il n'y a jamais eu un moment où je me suis sentie représentée. Du moins en France, jamais. En Angleterre, peu. Aux États-Unis, éventuellement. C'est-à-dire que je coche plusieurs cases. Et je pense que tous les êtres humains cochent des cases. Il n'y a jamais une seule personne qui est une femme blanche. Tout le monde a sa spécificité, a sa chose. Et la difficulté, quand on est... c'est-à-dire que moi... Politiquement, je ne peux pas dire que je sois grosse, je fais du 46, j'arrive à m'habiller dans les magasins, on ne me discrimine pas sur mon poids. Mais sur un point de vue de la beauté, c'est particulier. Il n'y a pas beaucoup de fois où je peux voir des femmes comme moi, qui n'ont pas forcément la taille toujours très fine, les cuisses... moi, j'ai les cuisses 10 touches, j'ai pas de fesses, ou très peu. Par contre, j'ai des seins énormes. Voilà, c'est pas... Mon corps, il est... C'est pas une question qui soit atypique, mais il m'est tout à fait personnel, en fait. Mon corps, c'est moi. Et la représentation en France, elle n'existe pas du tout. Il n'y a pas de diversité sur les personnes exposées, c'est toujours la même chose. Et même quand ils essayent, c'est très stéréotypé. En tout cas, pour moi et mes copines, pour ce que j'en discute, ça cause de gros problèmes à l'adolescence. C'est quelque chose qui est douloureux, de ne pas se voir exister, de ne pas savoir si son corps a le droit d'exister, si on a le droit de s'aimer. Parce que ne jamais se voir et jamais voir de la beauté qui nous ressemble, bah, ça fait que la beauté n'existe pas pour soi. Donc on grandit dans un univers où même si des gens vont dire « Ah, t'es jolie aujourd'hui bah, », ça reste « Ouais, mais... » Je suis pas belle, voilà. Et en fait, je pense que la beauté, c'est un fondamental de la santé mentale. On est obligé de se trouver beau. En fait, c'est pas. Je dis pas que tout le monde est beau. Dans un sens, ce serait relativement hypocrite de dire que tout le monde va trouver tout le monde beau. Mais il est important qu'il n'y ait pas des choses qui soient spécifiques pour les personnes moches. Et ça, c'est ce qui existe en France. Et je pense que c'est assez bouleversant pour certains. La cellulite, c'est normal. Avoir des rondeurs, c'est normal. Des vergetures, c'est normal. Avoir un sein plus gros que l'autre, c'est normal. Ça ne devrait pas être un critère qui permet de définir le moche. Après, ça devrait être leur être personnel. Mais le problème, c'est que c'est biaisé. C'est biaisé parce qu'il n'y a pas de représentation. Chaque pays a son rapport à l'esthétique. Chaque pays construit, avec sa culture, avec sa façon de voir le monde, un rapport au beau. Et en France, on a toujours été un pays très porté sur les arts, mais sur un seul art. C'est-à-dire ce que, depuis toujours, on peint des femmes exactement de la même façon. Et qu'on le veuille ou non, même si on essaye de diversifier, ça reste très similaire. En France, on aime bien être très conservateur. On n'innove pas beaucoup. Comme je disais, j'ai vécu en Angleterre. C'est pas la même chose du tout. C'est un pays qui est totalement... la liberté, c'est un principe pour eux. Donc, à partir de là, il y a beaucoup plus de liberté créatrice. Je dis pas qu'en France, on peut pas créer. On a des artistes exceptionnels, notamment dans la mode. On peut pas nier qu'on ait un patrimoine incroyable. Mais ils vont pas les questionner des fondamentaux. C'est-à-dire que c'est toujours du renouvellement, casser des barrières. Mais le fondamental, ils ont du mal. C'est-à-dire qu'en France, le fait de dépasser la mode genrée, ils n'y sont pas encore. Alors que pourtant, la majorité des mannequins qui défilent, on sait très bien que... d'ailleurs, c'est pour ça, ça pose un vrai problème, parce que ça cause une très grande souffrance pour elles. Moi, j'ai des copines qui sont mannequins, qui défilent pour les Fashion Week. Voilà, on calcule la taille de leurs hanches, elles s'affament deux semaines avant parce qu'il faut être la plus mince possible, ressembler le plus à avoir un look le plus androgyne possible. Pourtant, la mode reste genrée, c'est très, très hypocrite, je trouve.
Et qu'est-ce que tu as pensé, tu as dû voir passer comme tout le monde sur Instagram, toutes ces couvertures des magazines US et magazines UK avec des femmes noires ou des femmes métisses ou des femmes racisées, disons. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Sincèrement, j'en pense rien, ça ne me touche pas. C'est pour moi, c'est du capitalisme. Le capitalisme tue les gens. Voilà, c'est le moment anticapitaliste. Pour moi, c'est tout simplement ils utilisent la souffrance des gens pour faire vendre des magazines qui au quotidien les tuent. C'est le pire qui puisse exister. Après, effectivement, c'est important. Parce que pour une fois, il y a des jeunes filles qui ont pu rentrer dans un buraliste et trouver 50 couvertures avec des femmes qui leur ressemblent plus ou moins. Je suis sûre que ça leur fait du bien. Et rien que pour ça, j'en suis contente. Néanmoins, si je dois me prononcer sur je trouve ça merveilleux, ce ne sera pas un changement. Ça va être un mois dans l'année, puisque c'est la rentrée, ils veulent taper gros pour le numéro de septembre. En octobre, c'est fini, quoi. Donc, c'est pas un changement. Disons que c'est une bonne action, mais ça reste quelque chose qui est orienté. Il y a un objectif précis, ils veulent faire, s'ils veulent faire des ventes. Moi, je pense, j'espère un changement plus profond que simplement le fait qu'ils se soient rendus compte que c'est marketing, quoi. Personnellement, je cumule beaucoup de stéréotypes. Déjà, je suis claire de peau, ce qui est un avantage dans la vie de tous les jours, mais que dans un univers sexuel, c'est assez particulier parce que pour beaucoup, ça tombe dans le fantasme. Je suis assez ronde. Donc du coup, pareil, il y a un fantasme, il y a un fantasme colonial, il y a un fantasme... C'est quelque chose avec lequel je vis. J'en joue beaucoup dans mon travail, du fait que il faut bien manger. Après, moi, je suis pareil, sur les contrats que j'accepte, ils sont très peu, je travaille très très peu. Je suis super dure déjà, travailler des mecs, c'est quasiment pas possible. Déjà, je trouve ça super humiliant en général. Moi, quand je travaille, j'exige de savoir qui est la maquilleuse à l'avance. Parce que les coups à finir terne, à finir verte, moi, c'est terminé. Je refuse qu'il y ait des coiffeurs. Personne touche mes cheveux parce que pareil, le nombre de fois où j'ai pas pu sortir les photos parce que personne m'avait dit que j'avais un épi. Au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Je suis pas là pour me faire humilier. Mais effectivement, au niveau de la sexualité, on pourrait en parler des heures. La sexualité, c'est un grand problème, surtout quand on est modèle. Je pense que quand on est modèle, c'est comme être danseuse de ballet ou chanteuse d'opéra. C'est un truc, ou même d'être actrice de théâtre. C'est un fantasme absolu. Déjà, on paraît dévergondé, on est plus ou moins nu, on voit de la peau, on voit de la chair, on voit de l'intimité, en fait, parce que le corps blanc mince, c'est pas de l'intimité, c'est devenu le domaine commun. On le voit partout, on le voit pour vendre des parfums, des voitures, voilà. Mais par contre, le corps qui est un peu différent, tout de suite, on retombe dans de l'intime, c'est « Ah, ça, j'avais jamais vu, c'est vrai, comme ça, les autres, elles sont comme ça, et ben voilà, je veux la toucher, je vais vérifier. » Le nombre de fois où je vais en soirée, il y a des types qui me retirent mes vêtements parce qu'ils m'ont vu en photo. J'essaye tous les jours de me répéter que j'ai le droit d'exister, que j'ai le droit de me trouver belle, que j'ai le droit de mettre ce que je veux, que j'ai le droit d'affronter les regards des gens et de les regarder droit dans les yeux et de leur dire d'aller se faire voir. Voilà. Et c'est ça. Et j'aurais bien aimé savoir faire ça plus tôt et de pas me laisser marcher dessus parce que je me suis laissée beaucoup marcher dessus. J'ai beaucoup dit oui à des choses où j'aurais jamais dû. Et maintenant, j'aimerais bien dire à tout le monde, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous ne le faites pas. Et puis les gens, ils n'ont rien à dire. Et puis même si vous vous êtes trompé, au pire, vous ne l'avez pas fait. Vous avez des regrets, mais vous n'avez pas quelque chose que vous pouvez... Le pire des choses, c'est d'être forcé à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Moi, j'aurais été prête à tout, j'aurais été prête à perdre un os pour que les gens me trouvent belle quand j'étais au lycée. Bah en fait, ils m'auraient quand même trouvé moche. Parce qu'en fait, le problème, c'était pas mon poids. Le problème, c'était ce que je représentais, c'était moi. Et j'aurais bien aimé le savoir plus tôt. Maintenant, je le sais, et puis voilà, j'ai envie de porter une robe, je porte une robe. Je porte très peu de soutien-gorge. Voilà, je fais ce que je veux. Et puis, je me sens bien, parce que moi, je sais que c'est moi qui le veux.
Dans le prochain épisode, découvrez le témoignage de Marie.
Binge.